Pendant les fêtes, les déboires survenus à deux de mes amis m'ont fait entendre de façon nouvelle cet évangile des noces de Cana. Elles ont connu toutes les deux, sans aucun rapport, ce que vous avez pour la plupart d'entre vous tous connu, vous savez, ces insupportables et imprévisibles fuites d'eau qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, Dieu sait pourquoi, qui arrivent principalement la nuit, les dimanches, les week-ends ou les jours fériés. Et je compatis d'autant plus que, vous le savez, ici, depuis ces précédents mois, on en a connu des inondations dues à des pluies torrentielles qui dévalaient les escaliers. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé en pleine nuit à écoper l'eau, à m'immoler, à 3 heures du matin, remplir les seaux, monter l'escalier, jeter dans le caniveau, redescendre, remplir les seaux, monter l'escalier. Une fois, un paroissien était venu m'aider. Mais c'est un bon exercice, pas physique, c'est un bon exercice à calculer. Deux seaux de 5 litres par trajet. Combien de trajets a-t-il fallu au serviteur de Cana pour remplir les 600 litres des 6 jarres de pierre? Vous avez 2 minutes. Deux fois 5 litres, ça fait 10 litres. Il faut 60 trajets quand on est tout seul. C'est beaucoup. Mettons qu'il y ait 6 serviteurs, ça fait quand même 10 trajets. Pour 6 serviteurs, c'est vraiment une noria. Il faut avoir quand même ça en tête. Alors on peut se dire, il y a existé certainement une sorte de réseau de canalisation depuis des citernes d'eau de pluie. Peut-être, mais le plus probable quand même, c'était que, justement pour la boire, c'était de l'eau qu'on tirait du puits. Disons simplement que les serviteurs se sont activés dans un contexte difficile. Tendu et difficile, celui quand même d'une fête de mariage. Ils l'ont fait sans rechigner. Et c'est aussi grâce à eux que les noces ont été sauvées. Il n'y a pas de miracle sans serviteur. Il n'y a pas de miracle de Dieu sans serviteur de Dieu. Sans participation humaine à la miséricorde divine. Il faut se garder d'avoir une vision trop verticale des miracles. Et il faut se garder aussi de trop de passivité de notre part. La providence de Dieu a presque toujours un visage humain. Au-delà du visage du Christ, elle a le visage humain de celui qui vient se porter à notre secours. Est-ce que je peux vous aider? Oh, vous êtes un ange. Il en est allé de même lors de la multiplication des pains, plus loin dans l'Évangile. Il a fallu au départ trouver des pains, fournir à Jésus des pains. Qu'est-ce que vous avez là? 5 pains, 2 poissons. Et il a disposé, grâce à ses apôtres, ses disciples, de tout un service d'aide à l'installation de la foule. Mettez-les par groupe de 30, de 50. Service d'aide aussi à la distribution des pains. C'est une parabole sur l'Église et sur les sacrements. La grâce de Dieu appelle la participation de l'homme. Alors si cette première question de savoir comment ils ont fait ce jour-là pour remplir ces énormes jarres ne vous parle peut-être pas beaucoup, la deuxième devrait vous être plus familière. C'était à qui de s'occuper du vin? C'est qui le responsable de ce fiasco? C'était qui n'avait pas prévu le vin en quantité suffisante alors que ces fêtes étaient ouvertes à tous à cette époque? Ce n'est pas des fêtes privées. Venaient tous les habitants du coin, tous ceux qui faisaient partie de la famille au sens large, du village ou des environs. Jésus et ses disciples y étaient aussi. Un samedi de juin, il y a quelques années, j'étais arrivé en fin de matinée sur les lieux du mariage que je devais célébrer l'après-midi. Comme j'étais très en avance, je passe au lieu de réception pour rassurer les fiancés et les futurs mariés de mon arrivée sur zone. J'arrive, un château, waouh, une splendeur. Bon, c'était pas eux, mais il était magnifique pour ce mariage. Un parc, une vue splendide et un soleil, vraiment une vision de rêve. Je vais donc me voir la fiancée, lui dire que je suis enfin là, qu'elle se rassure. Elle est entre les mains de sa coiffeuse, entourée de ses témoins, avec un photographe. Enfin, vous connaissez ces matins tout à fait particuliers. Et puis en sortant, je tombe sur le fiancé, blême. Il n'était pas blême, il y avait un blême, comme on dit, façon familière, un problème, un hic. Lui qui était d'importance, il venait de s'apercevoir que le vin n'avait pas été livré. La veille au soir, le transporteur était venu, et puis soi-disant, il est reparti, je trouve pas, je repars. Un mariage de 400 personnes, pas de vin. Le fiancé venait d'envoyer ses amis, ses témoins qui étaient là, pour sillonner les caves des environs et pour apporter de quoi boire en quantité et en qualité suffisante. Pas de temps perdu à s'énerver. Pas de temps perdu à chercher un responsable. Un seul objectif, une solution. Et avec beaucoup de délicatesse, pour ne pas inquiéter sa promise, la fiancée, ni les parents qui n'y pouvaient rien. Je me suis dit, tiens, voilà, là il marque des points. Il est bon le gars. Ça, c'était encourageant au moins, c'était stimulant pour moi, et puis même rétrospectivement, je me dis, on aimerait que beaucoup de nos responsables de tous ordres soient un peu soient des personnes comme ça, calmes, organisées, pragmatiques, de sang-froid. Voilà un bon vœu pour cette année. Ce qui me désole chez tant de couples en crise, c'est la façon dont ils se focalisent de façon quasi obsessionnelle, sur les erreurs de l'autre. Chacun sur les erreurs de l'autre. Parfois sur les tares de la belle famille. Et j'allais dire pire encore, sur Dieu, sur la responsabilité de Dieu. Ils viennent me voir et me le disent, le sentiment que Dieu les a abandonnés. Et si nous cherchons une solution? La question la plus forte, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut faire ce constat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, troisième réflexion que je voudrais vous livrer sur ces noces divinement rattrapées. L'interrogation que j'ai, justement, quand je rencontre certains fiancés, mais c'est tout aussi vrai de personnes qui viennent exposer des projets de vie ou des projets professionnels, c'est une question, c'est jusqu'à quel point faut-il laisser des personnes aller dans le mur? Jusqu'où faut-il laisser nos interlocuteurs, des amis, des proches, se méprendre dans leurs choix, se lancer dans des aventures, on ne va pas dire improbables, mais qui n'ont pratiquement aucune chance de réussite, vraiment impossible, qui feront leur malheur et celui de leur entourage. Seigneur, est-ce que tu allais à Cana à ses noces parce que tu savais qu'on aurait besoin de toi? Seigneur, si ta mère n'avait pas été là, si ta mère n'avait pas fait appel à toi, qu'est-ce qu'il se serait passé? Moi-même, dans un autre siècle, il y a bien des décennies, j'ai failli me marier. Je me suis souvent demandé ensuite, qu'est-ce qui fait que... Alors, le terme est un peu... Je ne vais pas dire j'ai été sauvé. ça ne concerne que moi. C'était vraiment sur ce type de projet improbable. Eh bien, cela me coûte de le dire, parce que sur le moment, ça m'avait vraiment énervé. Ce sont quand même, d'abord, les mises en garde de mes proches. Très difficile à entendre. Ce sont certainement les prières de ceux qui m'aimaient. Et puis, c'est fondamentalement l'éducation religieuse que j'avais reçue. Ce que j'avais appris en famille, à la messe, au catéchisme, à l'aumônerie, de la part des autres croyants que j'avais rencontrés tout au long de ma vie, à savoir ce que représente symboliquement ce vin des noces, l'amour de Dieu. Il faudra bien quand même un jour établir une corrélation entre l'absence, aujourd'hui, la défaillance d'éducation religieuse et l'explosion des échecs conjugaux et des divorces. Pour l'heure, retenons de ce signe que Jésus accomplit à Cana de Galilée les critères qu'il donne de la providence divine. Quand une aide se propose, de façon parfois inattendue, quand personne ne se borne à râler ou à accuser, quand on est capable, comme Marie en donne l'exemple, pour toutes les générations à venir, de faire appel à Dieu,
de dire à Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme Marie a dit, ce que Jésus nous dira.